Chers frères et sœurs, bonjour. Nous allons prendre nos Bibles et lire Ésaïe chapitre 40, verset 3. Une voix crie, deux points. Préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Je vais relire. Une voix crie, deux points. Préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Prions. Seigneur, nous nous remettons à toi, afin que, après l'écoute de cet enseignement, le Saint-Esprit l'utilise comme piste de direction pour nous conduire dans toute la vérité sur la voie de notre Seigneur, sur le désert, sur le lieu aride, afin que nous comprenions toutes les provisions qu'il a pour nous dans le désert. Les anciens ont posé cette question. Dieu peut-il dresser une table dans le désert? Donne-nous de trouver au travers de cet enseignement la réponse, pas seulement après l'avoir écouté avec nos oreilles, mais une révélation du Saint-Esprit à l'intérieur de notre monde spirituel, afin que ces paroles restent indélébiles dans notre âme et que le moment venu, nous allions dans les lieux arides, nous allions dans le désert, aplanir la voie pour nous. Amen. Nous sommes dans notre série intitulée « La croix, le lieu secret, le lieu de rencontre avec Dieu » pour répondre à la question « Où rencontrer Dieu ? Comment rencontrer Dieu ? À quel moment rencontrer Dieu ? Dans quel but rencontrer Dieu ?» C'est l'enregistrement numéro 5 qui fait suite à 4 enseignements où nous avons déjà partagé sur la relation entre la croix et l'Éden, la croix et l'histoire de Jonas, la croix avec le désert. Il y a aussi le quatrième enseignement qui parle de la croix et Noé. Nous revenons aujourd'hui sur la croix pour parler du but de la croix. À quoi sert la croix? Quelle est l'importance de la croix? Le Seigneur Jésus-Christ a achevé sa vie sur la terre avec la croix. Après quoi il a commencé la vie de résurrection d'entre les morts. L'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, nous parle beaucoup de la croix. Pierre, tout le Nouveau Testament nous parle de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il y a cette invitation du Seigneur qui nous dit que celui qui veut venir après moi, que celui qui veut être mon disciple, renonce à sa vie, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Premièrement, cette invitation du Seigneur Jésus-Christ montre très clairement qu'il ne suffit pas de se dire disciple de Jésus, mais qu'il s'agit ensuite de renoncer à sa vie, premièrement. De quitter son père, de quitter sa mère, de quitter son raisonnement, de quitter ses affaires pour se consacrer à lui, qui va nous redéfinir le père, la mère, les amis, le travail, tout, et nous donner sa vie à lui. Il dit ensuite qu'il prenne sa croix. Alors, vous imaginez le Seigneur, quand il a pris sa croix, il allait où? Il allait à la Golgotha où il sera crucifié, en passant par le jardin de Gethsémané. Et donc, lorsqu'il nous invite à la croix, il nous invite d'office à la tombe, en passant comme lui, par Gethsémané, en passant par Golgotha, en passant par la mort, en passant par le tombeau. Mais ce n'est pas pour la fin. Il a dit, celui qui croira en moi vivra, je le ressusciterai. Donc cette invitation, ce n'est pas une invitation pour la mort, en sorte que nous ayons peur de la croix, mais c'est une invitation à la vie. L'apôtre Paul nous dit, si nous mourons avec lui, alors nous ressusciterons avec lui. Donc, il s'agit bien là d'une croix qui nous amène à la mort, à notre vie, cette vie de chaque jour que nous n'aimons pas, à cause de tout ce que nous emmagasinons comme erreur, comme échec, comme péché. Et Dieu nous donne là l'occasion d'embrasser une toute nouvelle vie. Seulement, ces deux vies ne sont pas compatibles. Elles ne sont pas compatibles du tout. La vie de la chair et de sang s'oppose à la vie de l'esprit, en sorte que la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. Et donc Dieu est clair dans notre invitation à recevoir sa vie. Nous n'emportons rien de notre vie d'avant. Nous devons abandonner notre vie d'avant, nous devons renoncer à notre vie, renoncer à nos privilèges, renoncer à notre réputation, renoncer à nos plans, renoncer à ce qui a de la valeur à nos yeux, renoncer aux attachements que nous avons avec les humains, avec les biens. Nous devons renoncer complètement à cela et ensuite embrasser sa vie. Et donc, Ésaïe, le prophète, nous dit ici, « Préparez au désert le chemin de l'Éternel. » Nous avons vu dans notre partage numéro 3 que la croix, c'était le désert. Parce que là, vous n'avez plus de relations, vous n'avez plus de provisions, vous n'avez rien qui a de la valeur. Vous êtes nu, vous êtes dénué, vous êtes vulnérable. et votre vie ne peut dépendre que de Dieu. Et l'invitation de Dieu est claire ici, c'est au désert, préparer le chemin de l'Éternel. Dans les lieux arides, une route pour notre Dieu. Aplanissez une route pour notre Dieu. C'est la même phrase qui avait été dite par Isaïe que Jean-Baptiste a répétée lorsqu'il a annoncé la venue de l'agneau qui ôte le péché. Moi, je vous baptise de l'eau. Lui vous baptisera du Saint-Esprit. Mais pour qu'il le fasse, préparez la voie du Seigneur. Et où allez-vous préparer sa voie? Dans le désert, une voix crie. Dans le désert. C'est dans le désert que nous sommes censés rencontrer notre Dieu. Donc nous retenons ici que le désert, c'est le lieu de la rencontre. C'est le lieu où Dieu nous invite à le rencontrer. Et c'est cela la croix. Comment cela se passera-t-il? Répertoriez toutes les crises de votre vie personnelle à l'interne. Vous avez des crises de vous-même, des crises de santé, des crises d'angoisse, des crises de culpabilité, des crises de toutes sortes, des crises de confiance, incapacité à faire un travail scientifique, intellectuel, à mener un raisonnement, à faire un travail physique, peut-être dans les meubles, peu importe, quelque part dans votre vie, vous avez une crise avec vous-même. Vous avez une crise avec les autres, dans la famille, au travail, dans le quartier, avec vos compatriotes, en politique, je ne sais pas dans quel secteur de la vie vous œuvrez, avec vos enfants, votre femme, votre fiancé, votre parrain, peu importe, vous avez quelque part une crise en cours. Vous avez des crises avec la création. De nos jours, nous voyons combien davantage la création devient rebelle en soulevant à petite échelle comme à grande échelle des problèmes de salubrité, des problèmes d'érosion, des problèmes de sécheresse, des problèmes de vent violent, des problèmes de tempête, des problèmes d'inondation, des problèmes de déforestation, des problèmes d'insectes qui se multiplient en des autres qui font des dégâts, des problèmes de toutes sortes se lèvent dans la création. Volcan, tout ce que vous voulez, la création est en train de manifester davantage une sorte d'opposition à la vie et nous sommes vulnérables. Toutes ces crises qui ont déjà commencé, celles qui sont en train de naître et maintenant, ne vont pas diminuer. Elles ne vont faire qu'augmenter parce que c'est écrit que Dieu a dit « J'augmenterai les douleurs de l'enfant ». Ça veut dire que la création attend d'enfanter Dieu. La création entend d'enfanter le Fils de Dieu, celui qui écrasera finalement la tête de Satan. Tel que nous l'annonçait dans Apocalypse, la dernière bataille, ce sera la bataille contre la mort. Et en attendant, l'Épître aux Romains nous dit que la création soupire après la manifestation des fils de Dieu. Elle attend d'enfanter les fils de Dieu. Et ce sont les douleurs de l'enfantement. Et ces douleurs de l'enfantement, Dieu a dit dans Genèse chapitre 3 qu'elles vont augmenter, elles ne vont pas baisser. Donc regardez les problèmes que vous avez, n'essayez pas de les résoudre en vous disant « quand je vais passer, je vais entrer dans le repos ». Non, les problèmes ne vont faire qu'augmenter. Et donc il nous faut trouver une autre solution à ces problèmes. Quelle solution nous allons trouver aux problèmes que nous avons pour le moment? C'est là maintenant que la prophétie nous dit « allez dans le désert, allez dans les lieux arides ». Là, l'Éternel vous fixe rendez-vous. La croix, c'est le lieu de rencontre avec notre Dieu. Le lieu secret où Jésus a dit, quand tu veux prier, ça ne sert à rien d'aller dans les synagogues, de crier pour que les gens entendent que tu es en train de prier Dieu. Ça ne sert à rien, tu te trompes toi-même par des faux raisonnements. Si tu veux que les gens t'entendent, prie, les gens vont t'entendre. Et puisque c'est ce que tu as cherché, ben, donc tu as eu ton salaire s'ils t'ont entendu. Si tu veux que Dieu t'entende, va dans le lieu secret. Va là, dans ta chambre, ferme la porte derrière, là dans le lieu secret, prie ton Père. Et là dans le lieu secret, ton Père va te donner la réponse. Et quelle prière tu dois faire là-bas dans le lieu secret? Voici comment vous devez prier. Premièrement, ne demandez pas les choses. Trois catégories des choses que nous avons, dont nous avons besoin et le Père sait que nous avons besoin. Première catégorie, notre corps a des besoins pour survivre, le manger, le boire. La sécurité, ça veut dire avoir une maison, le confort, avoir un bon lit, de l'eau chaude quand il fait froid en hiver, de l'eau froide quand il fait chaud en été, pour ceux qui sont dans les zones tropicales. On a besoin de confort, on a des pulsions, en fait des envies de bien-être auxquelles nous voulons répondre. Le Père sait que nous en avons besoin et donc ce n'est pas ça que nous avons perdu. Ces choses ont disparu parce que nous avons perdu quelque chose de plus important. Donc, ce n'est pas ça qu'il faut demander. Deuxième catégorie des choses dont nous avons besoin, ce sont les besoins d'ordre relationnel. Nous avons besoin d'avoir un conjoint, une conjointe. Si nous en avons déjà, nous avons besoin d'avoir de bonnes relations avec eux. Nous avons besoin d'avoir de bonnes relations avec nos parents, avec nos enfants, avec nos voisins, avec nos compatriotes, avec ceux des autres pays, avec nos partenaires, avec nos collègues, nos subalternes, nos supérieurs, etc., etc., etc. Nous avons besoin de bonnes relations. Dieu sait que nous en avons besoin. Et enfin, nous avons besoin d'un contrôle sur les ressources de la terre. Nous avons besoin de maîtriser le cycle de l'eau, vent, les minéraux. Nous avons besoin de maîtriser nos champs, nous avons besoin de dominer sur la terre. C'est encore Dieu qui nous a donné ces choses et il sait que nous avons besoin de ces choses. Mais il a dit, ne demandez pas ces choses. Ce sont les païens qui les demandent. Ne demandez pas ça. Alors vous, qu'est-ce que vous faites? Premièrement, enfermez-vous dans le lieu secret, dans le désert, quand ça va mal, quand le problème commence ou quand tu sens qu'il va commencer. Va là dans le lieu secret. Prie ton père, dis-lui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit rétabli dans toute sa considération en tant que celui dont j'ai besoin, celui qui est supérieur, celui qui contrôle mes besoins personnels, ma santé, mon confort, celui qui contrôle mes relations, celui qui a le pouvoir sur toute la création, soit rétabli dans mon cœur, que je te reconsidère en tant que ton règne vienne. Et pour que le règne vienne, c'est là qu'intervient l'histoire du désert. Dieu dit, je veux rétablir mon règne. Mais avant ça, il faut que la domination des autres règnes disparaisse. Et pour ça, nous allons lire, prenons nos Bibles, nous allons dans Exode. Exode chapitre 4, verset 1er. Pardon, Exode chapitre 5, verset 1er. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Moïse et Aaron ont reçu pour Israël, le peuple de Dieu, l'invitation de Dieu à aller rencontrer Dieu pour une fête. Pas pour le malheur, pour une fête. Mais où? Dans le désert. Les anciens ont demandé, Dieu peut-il dresser une table dans le désert? Dieu, il a dit ici qu'il va faire avec une fête dans le désert. Prenez les bagages, les amis, nous allons à la croix. Là-bas, Dieu veut célébrer avec nous une fête en son honneur. Ce n'est pas en notre honneur, ce n'est pas en notre gloire, c'est clair, c'est en son honneur. Je ne veux pas entrer ici dans la polémique de Pharaon qui a ensuite posé la question à Moïse et à Aaron, qui est l'Éternel, pour que j'obéisse à sa voix. Cette polémique, nous n'allons pas entrer dedans. C'est une autre affaire. Nous allons nous arrêter à la question de l'invitation d'abord ici. Donc, Dieu nous invite pour aller célébrer une fête en son honneur. Ou à la croix, dans le lieu secret, là où Pharaon ne sera pas là, là où les Égyptiens ne seront pas là, là où il n'y aura que vous et lui face à face. Et c'est là que se trouve la fête en l'honneur de notre Dieu. Vous voulez fêter, vous voulez faire plaisir à Dieu. Mes amis, prenez la croix, suivez le Seigneur Jésus-Christ à la mort. Là, pendant que votre corps sera enseveli dans la tombe, c'est là que se fera la fête de l'Éternel. Mamma mia. J'aimerais que le Saint-Esprit vous ouvre l'esprit, l'âme, le corps, pour comprendre que la résurrection, c'est la fête en l'honneur de Dieu. Parce qu'à la résurrection, la vie d'avant est morte, elle est restée sur le poteau de bois, et la vie de Dieu a commencé maintenant à se développer à l'intérieur de votre corps mortel. Et là, Satan n'a plus accès, c'est Dieu qui règne. Alors, la prière qui dit que ton règne vienne s'accomplit. Mais pour qu'elle s'accomplisse, rendez-vous dans le lieu secret, rendez-vous dans le désert, rendez-vous là où nous allons ouvrir nos cœurs et aplanir le chemin que le Seigneur entre à l'intérieur de nous. Le rendez-vous, c'est au désert. Qu'est-ce qui se passe dans le désert? Ce que le peuple égyptien vit du Nil. Toute son activité est liée à la nature. Toute sa foi est liée à la nature. Toutes ses divinités sont des puissances, de pouvoirs que Dieu a donné soit au soleil, soit aux plantes, soit à l'eau, soit aux étoiles, soit à la fertilité, soit aux femmes, soit aux hommes. Toutes les divinités sont liées à l'énergie que Dieu a mis dans la création. Mais Dieu a vu que son peuple a commencé à prendre les mêmes habitudes et Dieu considère ça comme de l'esclavage. Il ne s'agissait pas des coups de fouet qu'on leur donnait pour construire des pyramides. Non, il s'agissait du fait que la mentalité égyptienne était en train de coloniser le peuple de Dieu et le peuple de Dieu commençait à croire que la vie dépend de la nature. Alors que la nature elle-même dépend de Dieu et la vie dépend de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit, venez dans le désert là-bas, là où vous n'aurez pas de Nil, là où vous n'aurez pas toutes ces divinités, mais moi, je vais vous faire survivre dans ce désert-là, indépendamment de toutes ces ressources. Je susciterai moi-même des ressources, j'appellerai à l'existence, pendant que vous serez dans le désert, des choses qui n'étaient pas comme si elles étaient, et vous saurez que je suis Dieu, que je contrôle la création.